Katmandou. Le monastère Kanying Chedrup Ling. Un endroit sinistre, une chaleur étouffante. Ceux qui vont participer à cette cérémonie sont de jeunes prêtres. Ce ne sont encore que des enfants. Et ils vont passer leur vie dans le monastère. Leurs jours seront faits de faim et de pauvreté. Ils ne travailleront pas. Et ils mendieront pour vivre. Ils n'auront aucune vie de famille. Et ils ne porteront rien d'autre que ces vêtements. Et qui plus est, ils feront tout cela au nom d'une croyance faite de superstition, par peur d'être réincarnés en une mouche ou en une souris. Parce qu'ils croient en une religion pleine de superstitions et d'erreurs, le bouddhisme. Le bouddhisme est une telle aberration que cette religion considère les personnes se torturant comme vertueuses. Ses adeptes se coupent de la vie au nom du mythe et de la superstition. Pour les bouddhistes, qui occupent leur journée à des rituels vains et irrationnels, la vie est toujours morose et sans perspective. De même, parmi tous ces rituels, le bouddhisme fait oublier Dieu aux hommes, ou même provoque chez eux son reniement. L'islam, au contraire, s'oppose totalement à cette fausse idéologie. Cette religion offre aux hommes une vie rationnelle, constructive et dynamique. À la différence des bouddhistes, ceux qui vivent suivant les valeurs morales islamiques sont toujours productifs, heureux et en paix. Plus important encore, ces derniers se rapprochent de Dieu, Seigneur de la création, et ainsi obtiennent le plus grand bonheur possible pour les êtres humains. Plaire à Dieu. Ce film décrit la religion bouddhiste et ses pratiques irrationnelles. Ceux qui voient dans le bouddhisme un chemin vers la paix et la sérénité sont les victimes d'une propagande trompeuse. Ils devraient prêter une attention particulière aux vérités exposées dans ce documentaire. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Inde était sous l'occupation aryenne. La religion principale dans ce pays était celle des Aryens, le brahmanisme. les Aryens avaient mis en place un système de castes strict dans le pays. Selon ce système de castes, la société était divisée en différents groupes. Les prêtres brahmanes étaient à la tête de ce système. Ils opprimaient la population impitoyablement. Durant ces années, un fils naquit chez le prince Suddhodana, membre de la noble famille Kakya, Siddhartha Gautama. Siddhartha passa sa jeunesse dans l'aisance et l'abondance. À l'âge de 29 ans cependant, il quitta le palais dans lequel il vivait. Et il entreprit une quête mystique. Résultant de cela, il exposa certains principes. Ces principes devinrent petit à petit un enseignement. Le bouddhisme. Le bouddhisme est apparu au nord-est de l'Inde. À l'époque, il s'étendit au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Chine, au Tibet, en Mongolie, en Mandchourie, en Corée et au Népal. Aujourd'hui, le bouddhisme compte environ 330 millions de disciples. Le mot Bouddha signifie l'éveillé ou l'illuminé, symbole des hauteurs spirituelles que Siddhartha Gautama est supposé avoir atteintes. De cette manière, on glorifie Siddhartha à travers ce nom. Bouddha choisit de parler de ses principes de base et de transmettre ses rites verbalement. Depuis 400 ans, les enseignements du Bouddha ont été transmis de génération en génération et uniquement oralement. Cet enseignement fut ensuite rassemblé dans un livre appelé Canon Pali. Aujourd'hui, le texte considéré comme sacré par le bouddhisme est le Tipitaka, écrit en langue pali. Il contient de nombreuses erreurs grossières. Les prêtres organisent leurs cérémonies et leur vie conformément à ce texte. L'unique thème enseigné dans ces livres est la renonciation à tous les désirs et la préparation de l'âme à une vie de pauvreté et de souffrance. Les bouddhistes se sont tellement axés sur ces questions qu'ils n'ont absolument pas conscience d'une vérité autrement importante. Cette vérité est l'existence de Dieu. De nombreuses personnes qui n'ont pas une vue d'ensemble du bouddhisme s'imaginent que le but ultime est l'adoration d'un créateur, comme dans les religions révélées. La vérité cependant est très différente. Le bouddhisme est un enseignement qui ignore totalement l'existence de Dieu. Pour cette raison, le bouddhisme est considéré comme une religion athée. L'une des principales raisons de l'ignorance de Dieu est l'étroitesse de vue de cette religion. Les bouddhistes construisent leur vie en abolissant tous les souhaits et les désirs humains, et en accomplissant différents rituels. médite jamais sur la question de savoir comment l'univers, les créatures et les êtres humains ont été créés. Aucun écrit bouddhiste n'a même jamais abordé ces questions. Les bouddhistes ignorent par conséquent l'existence et la puissance infinie de Dieu le Tout-Puissant, créateur de l'univers et de toutes les créatures. En plus d'être athée, le bouddhisme est aussi une religion païenne. Autrement dit, cette religion vénère des idoles. L'idole en question étant Bouddha lui-même. Faire du Bouddha une idole, ce processus commença immédiatement après la mort de ce dernier. Les prêtres bouddhistes entreprirent de l'élever au rang de divinité. Ils décorèrent les lieux où il vivait avec des statues géantes de Bouddha. Et ensuite, de façon superstitieuse, se mirent à adorer ces idoles qu'ils avaient créées de leurs propres mains. Ils construisirent même des temples dans lesquels les yeux du Bouddha étaient représentés. Ils croyaient de cette façon que Bouddha pouvait les voir, peu importe le lieu où ils se trouvaient, et les surveillaient constamment. Le bouddhisme, religion athée, ignore donc les vérités des enseignements des religions révélées comme l'islam, le christianisme et le judaïsme. La caractéristique la plus importante des religions révélées est qu'elles considèrent Dieu comme le seul et l'unique. Dans le Coran, Dieu révèle que votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. Les bouddhistes renient Dieu et irrationnellement font de Bouddha une idole, être humain sans ressources et mortel tout comme eux. Autrement dit, ils attribuent à Dieu des associés. À des centaines de passages dans le Coran, Dieu nous rappelle que cette association est un péché capital. Dieu a révélé qu'il ne pardonnerait jamais à ceux qui lui attribuent des associés, dans un verset. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelques associés commet un énorme péché. De nombreuses personnes pensent que le bouddhisme est une religion de paix. Ils imaginent même que le bouddhisme est une solution à de nombreux problèmes. C'est une énorme erreur. Le bouddhisme, en effet, considère la souffrance comme une vertu. Ainsi, cette religion pousse les gens vers une vie de souffrance et de pauvreté. Manger les meilleures nourritures, être propre, vivre de manière aisée est interdit dans le bouddhisme. Pour les moines et les nonnes de cette communauté, la vie est pleine de toutes sortes de difficultés. ils ne doivent pas travailler. Ils mendient leur nourriture en faisant du porte-à-porte au sein de la population. Pour cette raison, les prêtres bouddhistes sont même appelés par les hommes bhikkhus, ce qui signifie mendiant. C'est une des positions des plus humiliantes. Ils ne doivent ni se marier, ni avoir une vie de famille quelle qu'elle soit. Ils ne peuvent posséder qu'une robe. Ils ne mangent qu'un repas par jour, à finir avant midi. Ce repas est généralement de pain et de riz aux épices. Manger des aliments tels que de la viande ou des fruits est interdit. Bref, ces restrictions constituent une forme de masochisme. L'islam, au contraire, encourage les gens à jouir des bonnes choses de ce monde et leur interdit de s'infliger des souffrances. L'islam offre une vie sereine avec un objectif, celui de plaire à Dieu. Les hommes qui vivent selon les vertus morales du Coran n'ont rien à se reprocher, éprouvent du plaisir à exister, sont toujours pleins de vie, joyeux et heureux. Voici ce que Dieu révèle concernant ceux qui, comme les bouddhistes, s'infligent des souffrances. En vérité, Dieu n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Le Tibet. Pays où le bouddhisme règne. Le Tibet. Pays aux nombreux temples. Ils sont tous décorés avec de l'or et des pierres précieuses et ont une apparence somptueuse. Ceci est censé être un signe de respect à l'égard du Bouddha. Cet apparat et cette richesse, cependant, forment un contraste saisissant face à la pauvreté du peuple. Le Laos, le Népal, l'Inde. Le bouddhisme est aussi très répandu dans ces pays. Et la même opposition peut aussi y être remarquée. Des temples magnifiques, somptueux. Et des peuples tourmentés par la pauvreté. En bref, le bouddhisme apporte avec lui l'injustice plutôt que la justice sociale, la pauvreté plutôt que le bien-être. L'un des aspects les plus saisissants du bouddhisme est cette pratique de rituels étranges faits de superstitions. Sami, célèbre monastère au Tibet. Une cérémonie s'y déroule. Les prêtres jouent du radong. Trompette. trompette de 4,50 m de long. Cet instrument occupe une place importante dans le rituel bouddhiste. Le temple Jokang. Les gens accomplissent un rituel. S'inclinant devant une statue du Bouddha, ils s'acquittent des obligations de leur religion corrompue et païenne. Les bouddhistes dans ce temple à Katmandou perpétuent aveuglément les traditions transmises de leurs ancêtres, ne remettant jamais celles-ci en question quoi qu'il arrive. Ils passent leur journée à prier autour du temple, actionnant des moulins à prière. Il y a des centaines de drapeaux à l'extérieur des temples. Ce sont des drapeaux de prière. Selon les croyances superstitieuses bouddhistes, les prières écrites sur ces drapeaux sont dispersées par le vent. Les bouddhistes imaginent donc qu'ils ont fait un acte méritoire. Ceci n'est que mythe et superstition, comme les autres croyances bouddhistes. En effet, les bouddhistes, niant l'existence de Dieu, ne peuvent même pas nommer celui pour qui ils prient. Les reliques du Bouddha et des prêtres les plus importants sont aussi conservées dans ces temples. Les bouddhistes qui pénètrent dans ces temples vénèrent les statues du Bouddha. Ils lui offrent des fleurs et de l'encens. Ils considèrent tous ces rituels comme un chemin vers le salut. Mais voilà, ils font une fois de plus une grave erreur. Car les statues du Bouddha, devant lesquelles ils brûlent de l'encens ou font des vœux, ne peuvent ni les voir, ni les entendre. Les avertissements que les prophètes lançaient aux païens autrefois s'appliquent donc aux bouddhistes d'aujourd'hui. Quand il, Abraham, dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Si les bouddhistes qui perpétuent aveuglément les traditions de leurs aînés avaient réfléchi, ils auraient vu la terrible erreur qu'ils étaient en train de commettre. Le Bouddha qu'ils vénèrent est impuissant et semblable à tous les mortels. De la même façon qu'il a créé toute chose dans l'univers, Dieu a aussi créé Bouddha. La seule entité digne d'être servie est Dieu le Tout-Puissant. À propos des personnes qui se rabaissent et vouent un culte à des objets, Dieu demande. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien, et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes ? L'enseignement bouddhiste qui rejette la vie dans l'au-delà est une grave erreur pour ce qui est de la vie après la mort. Face à des questions sans réponse, les bouddhistes se sentent donc totalement perdus et leur esprit est sans cesse tourmenté. La croyance bouddhiste dans ce domaine repose sur les doubles superstitions de la réincarnation et du karma. Selon la croyance en la réincarnation, les hommes sont réincarnés en différents corps après la mort. Autrement dit, une personne redeviendra poussière après sa mort. Selon la croyance dans le karma, une personne sera inévitablement récompensée dans sa prochaine vie pour toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites au cours de celle-ci. En effet, une personne ayant accompli de mauvaises actions dans sa vie peut même être réincarnée en une plante ou en un animal. Mais si c'était le cas, qui juge la vie antérieure d'une personne et la renvoie dans ce monde avec un nouveau corps? Selon cette croyance qui nie l'existence de Dieu, comment fonctionne le processus du karma? Les bouddhistes sont incapables de répondre rationnellement à ces questions. Parce qu'il n'y a rien de rationnel dans leur religion. Même si la philosophie du karma peut sembler au premier abord une façon d'acquérir pour les gens des vertus morales positives, elle les conduit en fait à accepter des idées complètement fausses. Selon cette croyance, l'impuissance des hommes, leurs maladies et faiblesses sont issues des impuretés morales et sont censés être une punition de leurs actes accomplis précédemment. Par exemple, les raisons pour lesquelles une personne est pauvre ou est handicapée s'expliquent par son comportement lors de sa vie antérieure. Toutes les mauvaises actions faites par une personne dans une autre vie reviennent sous forme de pauvreté dans celle-ci. Autrement dit, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Cependant, dans la religion islamique, insuffisance physique ou difficulté ne constituent pas des châtiments. Ce sont simplement des épreuves. Et les hommes ont pour devoir de s'entraider dans l'adversité et la détresse. Pour cette raison, l'islam a une conception très aiguë de la justice sociale. Cette conception se retrouve également dans le christianisme et le judaïsme, originaires de la même source divine. Contrairement aux croyances dans le karma, croyances que l'on retrouve dans d'autres religions d'Extrême-Orient, ainsi que dans le bouddhisme, celles-ci détruisent l'idée même de justice sociale, jusqu'à aboutir à l'oppression des hommes, oppression qui va crescendo. Le système injuste de caste en Inde, qui se pratique depuis des centaines d'années et scinde la société en groupes, a trouvé sa base philosophique dans le mythe du karma. Selon l'islam, la réincarnation est donc un mythe légendaire. Dans le Coran, il y a une vie dans ce monde et une vie éternelle dans l'autre monde. Il est impossible de redevenir poussière plus d'une fois. Dans un verset, Dieu nous parle de la mort et de la résurrection en ces termes. Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé. Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Au commencement, chaque être humain est mort. Autrement dit, la base de la création humaine, ce sont des substances inanimées telles que la terre et l'eau. Ensuite, Dieu insuffle la vie à cette masse inanimée. À un moment précis, après la création de l'homme, sa vie arrive à terme et il meurt. C'est la fin de sa vie terrestre. Il retourne poussière et se décompose dans le sol. C'est la seconde fois qu'un être humain entre en état de mort. Finalement, il sera ressuscité dans l'au-delà et devra rendre des comptes pour l'ensemble de ses actes ici-bas. Dans le Coran, Dieu dit qu'après avoir créé l'être humain dans ce monde, il ne connaîtra qu'une seule mort. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première, et Dieu les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. Le monde occidental commença à s'intéresser au bouddhisme au XIXe siècle. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le bouddhisme devint alors un phénomène de mode. La culture pop des années 60 en particulier favorisa cette religion et lui donna ses lettres de noblesse. La jeunesse occidentale et certains intellectuels durant ces années abandonnèrent les croyances traditionnelles chrétiennes et commencèrent une quête spirituelle. Ils se tournèrent vers les religions extrêmes orientales. George Harrison, un des membres du célèbre groupe Les Beatles, se convertit à l'hindouisme, autre croyance païenne. À la suite de cela, des millions de fans des Beatles commencèrent aussi à s'intéresser à cet enseignement. John Lennon utilisa les mantras bouddhistes dans sa chanson « À travers l'univers ». Durant ces années, les mélodies bouddhistes, le style vestimentaire et les messages bouddhistes devinrent à la mode. Beaucoup de jeunes gens éprouvèrent un intérêt dans le bouddhisme par pure imitation, sans jamais cependant remettre en cause ses enseignements mythiques. La manière insolite de comment s'habillaient les bouddhistes, leur coupe de cheveux et les rituels, cela dépassait toute logique, semant la discorde entre les hommes et provoquant des difficultés inutiles. Ce phénomène devint alors le nec plus ultra pour ceux qui cherchaient à se faire remarquer. Les années suivantes, la société occidentale imposa le bouddhisme à travers des manifestations culturelles populaires. Hollywood en fut le chef d'orchestre. Ce même Hollywood aborda le thème des religions révélées de manière totalement opposée. La plupart des films hollywoodiens adoptèrent des croyances qui transgressaient foi et moralité chrétienne. Des messages répétés et systématiques furent diffusés pour renforcer les théories anti-religieuses. La La théorie de l'évolution fut imposée avec force aux spectateurs de ces films au contexte scientifique. Par exemple, la tradition de propagande anti-religieuse darwiniste commença avec le film Procès de singes, qui abordait le thème du procès d'un enseignant darwiniste en 1925. L'attitude d'opposition d'Hollywood à l'égard des religions révélées était l'antithèse exacte de celle adoptée à l'égard du bouddhisme. Le bouddhisme fut représenté dans de nombreux films comme une religion humaine, attrayante et qui prône la paix. Un de ses films est 7 ans au Tibet, mettant en scène Brad Pitt. Dune, réalisé par Martin Scorsese et traitant de la vie du Dalai Lama, chef suprême des bouddhistes, est un film de propagande destiné aux communautés bouddhistes. Little Buddha, du célèbre réalisateur Bernardo Bertolucci, résume d'une part la vie de Siddhartha Gautama et d'autre part celle de 3 jeunes enfants, réincarnation du Bouddha. En outre, un de ses enfants est occidental. Les vies privées des acteurs et actrices jouent donc un rôle essentiel dans cette propagande. L'un d'entre eux est le célèbre acteur Steven Seagal. Le chef suprême de l'école de bouddhisme tibétain, Nyingma, déclara que Steven Seagal était la réincarnation d'un lama du 15e siècle. Le célèbre acteur Richard Gere, outre le fait d'écrire des livres faisant l'apologie du bouddhisme, fonda la maison du Tibet à New York avec Richard Thurman, père de l'actrice Uma Thurman. Cette propagande bouddhiste qui a investi le monde occidental et qui a même été relayée à travers quelques points dans certains pays musulmans n'est pas un simple hasard. On a ainsi encouragé à dessein le bouddhisme. Car les forces sociales qui le soutiennent trouvent cette religion corrompue très en phase avec un autre enseignement, celui de leur propre vision de ce monde. Les bouddhistes croient en un changement perpétuel dans la nature. Selon la doctrine du karma, un poisson pourrait revenir sous la forme d'un mammifère dans une vie suivante, et un être humain pourrait revenir sous celle d'un insecte. Autrement dit, le bouddhisme envisage une transmigration des âmes entre les espèces et entre les êtres humains et les animaux. Un examen minutieux nous montrera que cette erreur est étroitement associée à une autre aberration contemporaine. La théorie de l'évolution de Darwin. Un chercheur bouddhiste a décrit comme suit la relation entre le bouddhisme et l'évolution. Le bouddhisme est satisfait de la théorie de l'évolution. En fait, la philosophie bouddhiste a vraiment besoin de cette théorie pour exister. Toutes les choses sont vues comme transitoires, en devenir constant, existant pour quelque temps, et puis disparaissant. L'idée des espèces immuables ne serait pas compatible avec l'ontologie bouddhiste. Pour cette raison, Les darwinistes se sont trouvés des affinités avec le bouddhisme et l'ont encouragé depuis le 19e siècle. La première personne à exprimer cette admiration était Thomas Huxley, le plus fervent partisan de Darwin. Huxley était un admirateur inconditionnel du bouddhisme. En effet, tout comme le darwinisme, le bouddhisme a rejeté l'idée d'un créateur. Donc d'après Huxley, le bouddhisme était le plus en phase avec la civilisation occidentale. Il écrivit à ce propos. Le bouddhisme est un système qui ne reconnaît aucun dieu au sens occidental, qui nie l'existence de l'âme humaine, qui estime que la croyance en l'immortalité est une bévue et son espoir un péché, qui rejette toute efficacité à la prière et au sacrifice, qui ordonne aux hommes de ne regarder rien d'autre que leurs propres efforts en vue du salut. Certains autres penseurs qui ont cherché à imposer leur philosophie matérialiste et leur athéisme dans les sociétés européennes ont suivi les traces d'Huxley et se sont intéressés au bouddhisme. L'un d'entre eux fut le philosophe allemand athée Friedrich Nietzsche, qui nourrissait une haine profonde à l'égard des religions révélées. La sympathie éprouvée pour le bouddhisme par des matérialistes tels que Huxley et Nietzsche démontre l'objectif sous-jacent à la propagande bouddhiste actuelle. Les matérialistes représentent le bouddhisme comme un moyen qui va leur permettre d'ajouter des valeurs spirituelles, bien qu'artificielles, au modèle d'une société athée qu'ils souhaitent établir. Leur objectif est de prévenir l'émergence des religions révélées au profit de religions alternatives et fausses. L'ensemble des religions extrêmes orientales sont des croyances fondées sur des superstitions. Elles ne sont en aucun cas basées sur des révélations de Dieu. Les hommes qui commencent à être gagnés par de telles croyances superstitieuses devraient réfléchir au verset de Dieu, notre vrai Créateur. Et il devrait marcher dans la voie de Dieu, comme il est ordonné dans le Coran. À côté de toutes les croyances erronées que nous avons examinées, il y a des principes moraux positifs dans le bouddhisme. C'est l'une des raisons pour laquelle cette religion s'est propagée en Occident. Par exemple, le bouddhisme interdit le vol. Il encourage les hommes à s'entraider. Tout cela laisse supposer que le bouddhisme a peut-être commencé en tant que religion fondée sur la révélation de Dieu, pour ne devenir corrompu qu'au fil du temps. Dans le Coran, Dieu nous dit qu'il a envoyé des messagers pour transmettre ses avertissements. Nous t'avons envoyé, Mohammed, avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Ce verset nous montre que Dieu pourrait certainement avoir envoyé un messager aux hindous. Ce messager a pu peut-être avoir été Siddhartha Gautama, connu comme le fondateur du bouddhisme. Après lui, toutefois, les hommes ont pu corrompre cette religion. et le bouddhisme a perdu ainsi ses fondements. Assimilant différents mythes locaux, il se transforma ainsi en une religion faite de superstitions. Même si le bouddhisme a vraiment une origine divine, il s'en est depuis complètement écarté. Cette religion a été dévorée par les croyances faites de superstitions et de rituels. Et il est aujourd'hui impossible pour elle de mener les hommes vers le chemin de vérité. Le bouddhisme. Un enseignement athée qui nie l'existence de Dieu. Une tradition fanatique qui tolère l'idée que les gens s'infligent des souffrances. Dans ce film, nous avons étudié la façon dont le bouddhisme, considéré par certaines personnes avec beaucoup d'envie, se nourrit de pratiques et de croyances totalement erronées. Nous avons vu comment les mythes de la réincarnation et du karma trompent les hommes. La plus grande erreur de cette religion est la manière dont le bouddhisme s'est basé, non pas sur la connaissance de Dieu, mais plutôt sur des traditions et des philosophies créées par les hommes de tout temps, et la façon dont ils les considèrent comme sacrées. Les bouddhistes et ceux qui ressentent de la sympathie envers cette religion devraient réfléchir à ces vérités en détail. Et ainsi se libérerait de cette croyance faite de superstition. Parce que les hommes qui acceptent les enseignements autres que ceux de la religion révélée par Dieu sont cités dans le Coran ainsi. Le culte auquel cela s'adonne est caduque, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Le chemin qui conduira les hommes à la vérité, au bonheur et à la paix, est celui révélé par Dieu, autrement dit la religion de l'islam. L'islam apporte aux hommes raison, civilisation, science, art et joie. L'islam illumine leurs âmes et les libère des ténèbres et du désespoir. Grâce à cela, les nations qui ont été honorées par l'islam et qui ont vécu sincèrement grâce à cette religion ont créé une des plus grandes civilisations dans l'histoire de l'humanité et ont dirigé le monde dans tous les domaines. C'est parce que l'islam est le chemin révélé par Dieu. Les seules portes du salut jusqu'au jour du jugement résident à se maintenir dans le droit chemin. Comme Dieu nous le dit dans le Coran. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.